France Inter, Léa Salamé, Nicolas Demorand. Le 7-9.
Bienvenue dans le 7-9, bonjour à tous, nous sommes le mercredi 9 décembre. Bonjour Agnès Soubiran.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, le très attendu projet de loi confortant le respect des principes de la République. Le texte est présenté ce matin au Conseil des ministres avant un débat qui s'annonce houleux à l'Assemblée début 2021. On en parlera à 8h20 avec le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, l'invité du grand entretien du 7-9 aujourd'hui. Le standard est ouvert et attend vos questions. 01 45 24 7000. Les autres titres, Agnès.
Ils sont passés de la parole aux actes. Les footballeurs du Başakşehir et du PSG ont quitté le terrain hier soir pour dénoncer les propos vécus comme racistes de l'un des arbitres de cette rencontre de Ligue des Champions. L'épineuse question du consentement des personnes âgées à la vaccination dans les EHPAD. L'appel du SAMU social de Paris pour renforcer les maraudes à l'approche de l'hiver. Et puis une nouvelle recette pour déguster le canard. Enchaîné.
Et justement, Léa, votre invitée aujourd'hui à 7h50.
Oui, alors qu'arrive Noël, comment vont nos personnes âgées? Comment sortent-elles de cette année douloureuse? On pose ces questions à David Garcia, cadre de santé à l'EHPAD des 4 saisons à Bagnolet. Il nous avait bouleversés par son témoignage plein d'humanité lors du premier confinement.
À tout à l'heure, Léa.
France Inter.
3 ans que le chef de l'État travaille sur ce texte censé apporter des réponses à des phénomènes de repli communautaire. Un texte qui a évolué sur le fond après l'assassinat de Samuel Paty et l'attentat de Nice. Et sur la forme avec un changement d'intitulé. Bonjour Maxence Lambrecq.
Bonjour.
Le texte validé par le Conseil d'État comporte 57 articles. Maxence, quels sont les principaux points et que va-t-il changer?
Il crée d'abord 2 nouveaux délits liés à l'histoire de Samuel Paty. Si vous mettez en danger la vie de quelqu'un en diffusant son identité, son adresse, vous risquerez 3 ans de prison, 45 000 euros d'amende, peine alourdie si c'est un agent du service public. Si vous menacez, intimidez, violentez un agent du service public en raison de vos croyances, vous risquerez alors 5 ans de prison, 75 000 euros d'amende. Dans le volet répression, il y a aussi le pouvoir renforcé des préfets sur les élus locaux qui céderaient aux pressions communautaires, l'interdiction des certificats de virginité, la polygamie, motif suffisant au retrait d'un titre de séjour, le fichage automatique des personnes condamnées pour apologie du terrorisme, susceptible aussi de ne plus pouvoir se rendre dans les lieux de culte. Le gouvernement voulait interdire l'instruction à domicile. Le Conseil d'État a dit non. Il y aura donc juste plus de contrôle aussi des fédérations sportives, des associations cultuelles, loi 1901 et notamment de leur financement. Enfin, les subventions publiques aux associations seront conditionnées au respect des principes républicains.
Et alors, à aucun moment, Maxence, il n'est question de séparatisme ou d'islamisme dans ce texte. C'était pourtant le point de départ.
Bien sûr, à Mulhouse, en février dernier, Emmanuel Macron présente
cette stratégie de lutte contre le séparatisme islamiste.
7 mois plus tard, dans son discours des Mureaux, il insiste.
Il y a, dans cet islamisme radical, puisque c'est le cœur du sujet, abordons-le et nommons-le.
Le nommer, oui. L'écrire noir sur blanc, non. Impossibilité juridique, avance l'Élysée. Choix politique, admet un ministre. Le texte est suffisamment dur, pas besoin d'en rajouter. Et mieux vaut un projet pour que contre. Choix diplomatique aussi, avec la crainte que cette formule séparatisme islamiste soit mal traduite, mal comprise, synonyme à l'étranger de stigmatisation des musulmans.
Merci Maxence Lambrecq. Et le texte sera donc présenté ce matin par Jean Castex. Et à 8h, nous reviendrons sur l'article concernant la scolarisation des enfants à domicile.
Il est 7h04, du jamais vu, donc hier soir, Agnès, sur un terrain de football.
En quittant la pelouse du Parc des Princes, hier soir, les joueurs du Başakşehir Istanbul et du PSG ont voulu marquer les esprits. Cela fait des années que des joueurs dénoncent les insultes racistes, les cris de certains supporters. Des rencontres ont été interrompues, mais cette fois, le match n'a pas repris. Ce sont les mots du 4e arbitre de la rencontre qui ont provoqué la colère des joueurs. Récit signé, Cédric.
La rencontre a dégénéré à la 14e minute de jeu lorsque l'entraîneur adjoint du Başakşehir Istanbul, Pierre Webo, ancien international camerounais, a laissé éclater sa colère. Colère encore plus audible dans un stade à huis clos. Il m'a traité de noir, dit-il en parlant du 4e arbitre qui venait de signaler un fait de jeu à l'arbitre central. Les joueurs des deux équipes se sont alors regroupés près de la zone technique turque. Des échanges, des discussions, sans issue. Les Stambouliotes ont pris la direction du vestiaire 10 minutes après, rapidement suivis par les joueurs du Paris Saint-Germain. Eric Rabessandratana, ancien joueur du PSG, était au Parc des Princes hier soir.
On voit l'envergure et l'importance de cette réaction des joueurs. C'est quand même une fierté de voir qu'on avance de ce côté-là. On ne subit plus le racisme, on se bat contre. Et il y a une réaction très positive des deux équipes et c'est ce que j'ai envie de retenir.
La rencontre reprendra ce soir, là où elle s'est arrêtée, après 14 minutes de jeu.
Cédric Guillou, et très vite hier soir, le débat s'est poursuivi sur les réseaux sociaux avec des joueurs de toute l'Europe partageant des points levés, blancs et noirs, et le slogan « No to racisme ». La ministre des Sports salue la symbolique forte des joueurs. Place aux plaidoiries de la défense ce matin au procès des écoutes. Hier, l'avocat général a requis 2 ans de prison ferme à l'encontre de Nicolas Sarkozy, mais aussi de l'avocat Thierry Herzog et de l'ex-magistrat Gilbert Azibert. Nous y viendrons dans le journal de 7h30. Et puis c'est aujourd'hui la journée de deuil national en mémoire de l'ancien président Valéry Giscard d'Estaing, mort mercredi dernier à 94 ans, des suites du Covid-19. La lutte contre l'épidémie, avec près de 14 000 cas supplémentaires en 24 heures, une légère baisse du nombre de patients hospitalisés en réanimation, des chiffres qui seront analysés de près lors d'un conseil de défense sanitaire aujourd'hui à l'Élysée pour décider des règles concernant les fêtes de fin d'année et de la future campagne de vaccination. Dans les EHPAD où les personnes âgées seront vaccinées en premier, se pose la question du consentement, notamment pour les résidents souffrant de troubles cognitifs. Hélène Chevalier.
Respecter la volonté d'une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer ou d'un trouble cognitif est une vraie question d'éthique pour Gaël Durel, président d'EMCOR, association des médecins coordonnateurs dans les EHPAD. Si pour sa dignité, des soignants vont par exemple continuer à faire une toilette à un résident même s'il la refuse, pour le vaccin, la démarche doit être différente.
On doit être très attentif à recueillir auprès de la famille, auprès des proches, les valeurs de cette personne-là, donc dans toutes les capacités, donc les identités de sa vie. Donc si, lorsqu'elle avait des capacités intellectuelles et cognitives de s'exprimer, elle dit « jamais je ne me ferai vacciner contre un vaccin de telle nature », donc on doit respecter sa volonté.
Pour le gériatre, cette décision doit être prise par le tuteur en concertation avec le médecin traitant ou seulement par le médecin s'il n'y a pas de tuteur. Pas question pour Gaël Durel que le consentement soit uniquement signé par la famille ou une personne de confiance.
Dans des familles, vous pouvez avoir des avis différents donc de la part des différents enfants. Lequel aurait le plus de capacité à exprimer la volonté de la personne? Donc ce serait pour nous difficile à pouvoir exprimer. C'est pas à la famille de donner son ressenti par rapport à un nouveau vaccin, par rapport à des effets secondaires potentiels donc que l'on ne connaît encore pas complètement aujourd'hui.
Le Conseil consultatif national d'éthique a été saisi par le gouvernement sur la stratégie vaccinale et cette épineuse question du consentement. Son avis est attendu d'ici une semaine.
Hélène Chevalier, chez nos voisins européens doivent faire face également à cette deuxième vague difficile à contenir. La Bavière est depuis minuit en confinement strict et la Saxe, la région la plus touchée d'Allemagne, le sera à partir de lundi prochain. Et c'est tout le pays qui pourrait suivre. À Berlin, Ludovic Piétenu.
L'effet domino est à prévoir dans presque toute la République fédérale allemande. Quand une puis deux régions, comme ici la Bavière et la Saxe, prennent des décisions, on l'a vérifié depuis le début de cette pandémie, les autres suivent. L'heure est donc à un confinement beaucoup plus strict, l'inverse de ce qui avait été envisagé avec un peu plus de liberté entre Noël et la Saint-Sylvestre, peut-être parce qu'on a collectivement sous-estimé cette deuxième vague, suggérait hier le ministre-président de Bavière, Markus Söder, juste avant de voter l'état d'urgence. On doit prendre cette épidémie beaucoup plus au sérieux. Il ne suffit plus d'appeler à la responsabilité individuelle. Beaucoup participent de manière formidable, mais pour d'autres, c'est plus difficile. Et puis, il y a ceux qui n'entendent rien. Cette stratégie de l'autoresponsabilité, plaidée par Angela Merkel et qui avait fait ses preuves pendant la première vague, montre aujourd'hui ses limites. Des premières régions la contestent. La chancelière devrait donc intervenir d'ici la fin de la semaine et suivre, on sait qu'elle leur prête une oreille attentive, cet appel rare lancé hier par l'Académie des sciences. Si l'Allemagne veut s'en sortir, il ne faut aucun contact pendant les fêtes, écrivent ces scientifiques. La vie publique doit être mise au repos au moins jusqu'au 10 janvier.
La pandémie qui aggrave encore la situation des réfugiés et déplacés, dont le nombre ne cesse d'augmenter. Nouveau record selon l'ONU, avec 80 millions de personnes dans le monde qui vivent hors de chez elles. Et le haut commissaire aux réfugiés met en garde contre une situation qui devrait empirer si les dirigeants du monde n'arrêtent pas les guerres. Des réfugiés, des demandeurs d'asile qui se retrouvent parfois sur les trottoirs de nos villes. Le SAMU social de Paris lance ainsi un appel aux dons pour renforcer ces maraudes avec l'hiver qui arrive et les températures qui chutent. L'organisation a besoin de 300 000 euros très vite pour répondre aux besoins. Rémi Brancato a suivi une équipe de nuit dans la capitale. Reportage.
Dans le hangar du SAMU social, les équipes préparent leurs camions.
On a un peu de café, un peu de soupe.
Et ça c'est quoi Magali? Vous avez une tablette entre les mains.
C'est là-dessus qu'on reçoit nos signalements. Là du coup on a deux hommes inconnus sans plus d'informations. On y va.
Arrivée sur un trottoir du 5e arrondissement, Magali, la travailleuse sociale, offre une soupe à Julien.
Avec le Covid, c'est un peu emmerdant, quoi.
Ouais, comme vous disiez, les bibliothèques, tout ça, c'est fermé.
Ouais, bah, on erre dans la rue, hein. On peut aller nulle part. Dans les centres sociaux, voilà.
Ouais, il y a les accueils de jour qui sont ouverts un petit peu.
Avec ses collègues Léa, infirmière, et Nathalie, chauffeur, il faut gérer la pénurie. Les centres et les haltes d'urgence sont confinés. Les personnes déjà hébergées et n'en accueillent que 2 ou 3 par nuit, contre 30 d'habitude.
Ça complique notre travail parce qu'il y en a beaucoup qui aiment bien avoir une place d'hébergement toutes les 2 semaines, 3 semaines. Comme ils savent que la réponse sera négative, ils ne demandent plus et on perd un peu ce lien qu'on peut avoir.
Donc s'il dort, là, vu qu'on n'a pas de place en ce moment, on ne va pas le réveiller, on va juste contrôler s'il respire.
Au détour d'une rue, un livreur à scooter s'arrête et nous interpelle.
Un hôtel, mais on n'a pas d'hôtel. C'est le confinement, donc on n'a pas de place en ce moment, monsieur.
Un travailleur sans toit, comme beaucoup d'autres.
Avec le Covid, il y en a plein qui ont perdu leur emploi. De ce public-là, il y a eu une augmentation, oui.
Alors avec aussi des maraudes sanitaires en journée, le SAMU social appelle aux dons pour faire face et maintenir ses équipes l'an prochain.
Reportage de Rémi Brancato. 5 morts et 1 blessé en état d'urgence absolue. Lourd bilan après le crash d'un hélicoptère hier en fin de journée en Savoie. L'appareil de la compagnie privée Service Aérien Français s'est écrasé à 15 kilomètres au sud-ouest d'Albertville. La météo était mauvaise avec du brouillard et de la neige. Enfin, vous connaissez, Nicolas, la réputation du Gaulois réfractaire
mais
au changement.
Oui, oui.
Eh bien, il est incarné ici par le canard enchaîné qui avait toujours refusé de céder aux sirènes du numérique. Mais 1, puis 2 confinements seront venus à bout des réticences de l'hebdomadaire satirique qui propose donc depuis ce matin des abonnements en ligne avec un site plus étoffé. Bref, Alexandra Akoun, tout en conservant le papier, le palmipède devient résolument 2.0.
Après y avoir timidement trempé une palme, le canard a en effet décidé de plonger en entier dans la mare du numérique avec une édition en ligne dès le mardi 23h. La possibilité de consulter 2 ans d'archives, de coupler un abonnement papier avec un abonnement numérique. Un vrai tournant pour l'hebdomadaire satirique né en 1915. Une urgence surtout face à la disparition des points de vente, explique Nicolas Brimaud. Il est le directeur du canard enchaîné.
On était à 32 000 points de vente il y a 10 ans. Aujourd'hui, on est à 22 000 points de vente. Donc ça devient un vrai problème. On ne peut pas demander décemment à un lecteur de marcher 5 km sous la pluie ou de prendre sa voiture et faire 30 km pour acheter un journal. La fermeture des points de vente, elle a un effet immédiat sur la vente des journaux.
Un problème que la crise sanitaire n'a fait qu'accentuer. Dans les aéroports, les kiosques sont toujours fermés. Dans les gares, ils tournent au ralenti. Au premier semestre, les ventes au numéro ont chuté de 20%. Ajoutez à cela la crise du distributeur Prestalis, le canard se devait de réagir.
La crise de Prestalis, elle nous a coûté 3 millions d'euros, c'est-à-dire une année de bénéfices, et elle va provoquer probablement pour l'exercice 2020 une perte importante de 2 millions d'euros. Donc tout ça, oui, joue, bien sûr, évidemment. Hein. Un journal totalement indépendant, c'est un journal qui gagne de l'argent. Hein.
De ce côté, en revanche, pas de souci à se faire. Malgré un léger déficit l'an passé, 34 000 euros, le canard enchaîné dispose toujours d'un trésor de guerre de 129 millions d'euros.
Un canard à savourer sans modération.
Merci Agnès Soubiran. Le zoom dans 3 minutes.